I'd like to have a democracy.
Élections, le magazine des élections municipales de Radio PFM. Aujourd'hui, pour ce 11e numéro, on est avec Laura, Nico et Guy Le Polarski. Salut à vous trois.
Salut.
Salut. Salut.
Élections, 11e épisode, donc avec au programme notre dossier du jour, un peu d'histoire dans la campagne électorale. Et on retrouvera Guy Le Polarski pour une nouvelle chronique aux urnes citoyens. Mais d'abord, Laura nous propose de revenir sur les financements de campagne. Et oui, parce qu'il faut toujours des sous-sous.
Une fois n'est pas coutume, les règles de financement des campagnes électorales municipales diffèrent selon la taille de la commune. Dans les communes donc de moins de 9000 habitants, les candidats n'ont pas d'obligation, si ce n'est l'interdiction de recevoir des dons de personnes morales, et en contrepartie, aucun remboursement public n'est prévu à leur endroit. Pour les communes de 9000 habitants et plus cette fois, les règles concernent le plafonnement des dépenses, l'obligation de nommer un mandataire financier et de déposer un compte de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politique, la CNCCFP.
Alors, pour ces communes, on distingue les financements par des personnes physiques et les financements par des personnes morales.
Oui, seules les personnes physiques de nationalité française ou résidant en France peuvent verser un don à un candidat. Une même personne physique ne peut pas, lors d'une même élection, financer la campagne d'un ou de plusieurs candidats pour une somme totale dépassant 4600 euros. Attention, les contributions des candidats ou de leurs remplaçants sont considérées comme des apports personnels et ne sont pas plafonnées. Les seules personnes morales admises à participer au financement de la campagne électorale d'un candidat sont les partis ou groupements politiques. Aucune contribution ne peut provenir d'autres personnes morales de droit privé, entreprises, associations ou de droit public, établissements publics, collectivités territoriales, etc. La CNCCFP rappelle qu'il est interdit à tout candidat de recevoir, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger, des prêts d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger, à l'exception des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen. Outre leurs conséquences sur le compte de campagne, le non-respect de ces interdictions est constitutif d'une infraction pénale. Les peines encourues peuvent, outre l'invalidation du scrutin, aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende et 5 ans de radiation des listes électorales, en cas de détournement de fonds publics par exemple.
On parle de financement, mais quid des dépenses électorales ?
Ce sont les dépenses effectuées en vue de l'élection municipale par le candidat ou pour son compte pendant les 6 mois qui précèdent l'élection. Il faut en noter les dépenses de campagne officielles qui concernent les affiches pour l'affichage électoral, les circulaires, les bulletins de vote. Les dépenses électorales ne doivent pas dépasser un plafond qui est fixé en fonction du nombre d'habitants de la commune. Il est majoré pour les listes présentes au second tour. À Arras, par exemple, la population municipale recensée au 1er janvier 2026 est de 42 875 habitants. Le plafond des dépenses électorales pour les listes présentes uniquement au premier tour est de 56 661 euros. Pour les listes présentes au second tour, ce plafond est de 78 360 euros. Et il s'agit là des dépenses totales, il n'y a pas de cumul avec le plafond du premier tour. Vous pouvez télécharger ce tableau définitif des dépenses et remboursements des dépenses de campagne des communes de plus de 9000 habitants sur le site de la préfecture du Pas-de-Calais. www.pas-de-calais.gouv.fr.
Le code électoral impose aussi l'obligation pour le candidat de percevoir les recettes par l'intermédiaire d'un mandataire financier désigné par le candidat.
Lui seul peut recueillir les fonds et engager les dépenses de campagne. Ce mandataire financier peut être une personne physique ou une association de financement électoral. Après l'élection, les listes doivent déposer un compte de campagne en équilibre ou éventuellement en excédent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Depuis la loi du 14 avril 2011, les listes qui ont obtenu moins de 1% des suffrages exprimés et qui n'ont reçu aucun don de personne physique sont dispensées de l'obligation de déposer leur compte, ainsi que celle de fournir les pièces justificatives de dépenses ou de recettes. Le compte de campagne doit être présenté à la CNCCFP par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés qui doit s'assurer de la présence des pièces justificatives requises. Le compte doit être déposé au plus tard le 22 mai 2026 et la CNCCFP approuve après réformation ou rejette les comptes présentés.
Et après l'élection, il y a aussi les remboursements de campagne.
Si le compte de campagne est approuvé donc par cette commission, un remboursement forfaitaire est versé aux candidats qui ont reçu au moins 5% des suffrages exprimés au premier tour du scrutin. Le candidat est remboursé du montant arrêté par la commission à hauteur de son apport personnel, c'est-à-dire les versements personnels et emprunts du candidat remis au mandataire. C'est dans la limite de 47,5% du plafond fixé pour chaque circonscription. Le montant du remboursement peut être modulé lorsque la commission relève des irrégularités qui n'entraînent pas le rejet du compte de campagne. Les dépenses engagées pour la campagne officielle, on en a parlé tout à l'heure, hein, pour les affiches, pour l'affichage électoral, les circulaires, les bulletins de vote, sont remboursées par les préfectures aux listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés par tour dans les communes de 1000 habitants et plus. Pour obtenir un remboursement, les listes doivent respecter un certain nombre de conditions, par exemple la qualité du papier. Les sommes remboursées sont établies en fonction de tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté. Et dans les communes de moins de 2500 habitants, eh bien les listes qui souhaitent adresser une circulaire aux électeurs doivent en assurer eux-mêmes la distribution.
Bien, merci Laura pour toutes ces infos. Et on retrouve Guy qui nous a préparé une nouvelle chronique aux urnes citoyennes et citoyens et qui ouvre la porte sur les maires sortants, une place forte.
On a beaucoup parlé du mal-être des maires de France, notamment avec la période Covid, mais aussi au vu des attentes de plus en plus prégnantes des habitants, avec des menaces et des faits de violence envers les élus en hausse. Les relations compliquées avec les services locaux de l'État et le sentiment d'une perte de responsabilité avec de nombreuses compétences relevant des intercommunalités n'arrangent pas les choses. Résultat, jamais le nombre de démissions de maires n'a été aussi élevé. On en comptait 2400 entre 2020 et 2024, un nombre record. En regard de cela, il faut considérer les près de 35 000 maires de notre pays pour autant de communes et les 900 000 candidatures recensées lors des municipales de 2020 pour 47 millions d'électeurs, ce qui semble être une exception française en termes d'engagement dans la vie municipale. Ces démissions de maire touchent plus particulièrement les plus petites communes. On imagine en effet assez facilement qui assurer cette responsabilité après une journée de boulot peut devenir lassant. Ce n'est pas la même chose d'être le maire d'une commune de moins de 1000 habitants que d'être celle ou celui d'une commune de plus de 30 000 habitants. Toujours est-il que ce mal-être des maires ne devrait pas avoir de répercussions sur les prochaines élections municipales avec un nombre global de candidatures du même niveau que pour les précédents scrutins et surtout près de 60% des élus qui devraient se représenter en mars prochain selon une enquête du CEVIPOF, Centre de recherche politique de Sciences Po. Des maires et des équipes municipales sans doute confortées dans cette volonté de rempiler par les résultats d'un sondage Ipsos indiquant que 58% des Françaises et Français souhaitent que leur maire se représente et soit réélu. Le maire est assurément l'élu préféré des Français. 69% lui accordent leur confiance, confiance plus élevée dans les communes de moins de 10 000 habitants que dans les grandes villes, 75% contre 53% pour ces dernières. En résumé, si vous voulez devenir maire aux prochaines élections municipales, vous aurez beaucoup plus de chances d'y arriver si vous l'êtes déjà. La prime au sortant est une réalité dans ce type d'élection. 60% des maires actuellement en poste ont été réélus en 2020 et a priori ce pourcentage monte à 80% pour les communes de plus de 30 000 habitants. Alors, localement, c'est le cas depuis 1945 à Arras avec une exception en 1995 et une particularité en 2014. En 1995, pourtant à la tête d'une liste, je cite, présentée par le conseil municipal sortant, Léon Fatou, maire depuis la mort de Guy Mollet en 1975, est battu à quelques voix près par Jean-Marie Van Leurenberg pour le centre et la droite. Jean-Marie Van Leurenberg qui mettra ainsi fin à 50 ans de règne de la gauche à Arras. Être réélu n'est pas automatique, donc néanmoins, le nombre de celles et ceux qui sont battus reste faible. Environ 7% des maires sortants candidats à leur propre succession. À ce propos, il faudra observer une situation locale intéressante avec la candidature à sa succession du maire sortant de Valenciennes, Laurent Degallet. L'élu Horizon, parti de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, vient en effet de passer 2 jours au tribunal de Lille où il était mis en accusation de complicité de prise illégale d'intérêt et de subordination de témoins. Le réquisitoire du parquet est sans appel, 1 an de prison et 5 ans d'inéligibilité, mais le jugement ne sera rendu que le 30 avril. Et Laurent de Galet, non coupable à ce jour, sera donc bien candidat aux prochaines municipales, comme le révèle La Voix du Nord. Quelle sera alors la réaction des électrices et électeurs de Valenciennes? Resteront-ils majoritaires à le souhaiter réélu? Et dans ce cas, assister à un potentiel 3e tour au moment du rendu du jugement? Mais retour à Arras, où être maire sortant est assurément une place forte, avec une particularité, vous disais-je, et c'est en 2014, avec la réélection du maire sortant, en 2014 donc, qui n'avait pas été élu en tant que tel 6 ans plus tôt. En effet, Jean-Marie Van Leurenberg, encore lui, a décidé de céder son mandat de maire 3 ans après son élection de 2008, en 2011 donc. Céder ce mandat à un de ses adjoints, Frédéric Le Turc, qui s'est ainsi vu offrir un boulevard pour l'élection de 2014. Élection où il n'a pas manqué de se présenter comme maire sortant et qu'il a remporté dès le premier tour avec 51,2% des voix. Stratégie, coup politique, gestion de sa succession par un maire soucieux de voir son action prolongée au-delà de son mandat, la méthode a donc fonctionné à Arras. 2 situations emblématiques dans la région nous montreront en mars prochain si ce type de calcul s'avère payant à chaque fois. Lille, d'abord, où Martine Aubry, maire depuis 2001, a laissé en mars dernier sa place à son premier adjoint, socialiste comme elle, Arnaud Deslandes, qui est donc candidat à sa succession. Et à Saint-Amand-les-Eaux, c'est en janvier dernier, après 30 ans au poste de maire, qu'Alain Bocquet, figure du Parti communiste français, a laissé sa place à une autre figure de ce même parti, Fabien Roussel, qui en est le secrétaire national et qui, lui aussi, est candidat à sa succession. À Lille, comme à Saint-Amand, les paris sont ouverts. Si sortir le sortant reste un sacré défi, sachez toutefois que si vous voulez absolument devenir maire, il existe une solution imparable. Eh oui, Boris, ne cherche pas une étiquette politique miracle, mais il faut, pour devenir maire à coup sûr, se présenter et mener une liste pour une première élection comme pour une réélection dans une commune où il n'y a qu'une liste candidate. Résultat garanti. Vous aurez bien entendu intérêt à choisir une petite commune. Plus le nombre d'habitants augmente, plus les chances de se retrouver dans cette configuration idéale diminuent. En tout cas, si vous voulez des tuyaux pour un tel scénario, je vous conseille de solliciter le maire de Saint-Laurent-Blangy, Nicolas Desfachel. Il a été élu sans concurrent en 2014, puis réélu toujours sans concurrent en 2020 et sa liste devrait à nouveau être seule en liste le 15 mars prochain. C'est ce qui s'appelle écœurer la concurrence.
Merci Guy Lepolarski. Donc, on te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique aux urnes citoyennes et citoyens.
Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, des atomes, fais ce que tu veux.
Et on arrive à notre dossier du jour, Nico, quand l'histoire rentre dans la campagne électorale.
Oui, Boris, Robespierre s'immisce dans cette campagne des municipales à Arras. C'est un peu surprenant, plus de 230 ans après la mort de l'incorruptible. L'avocat arageois fait toujours parler de lui. Alors, si vous n'avez pas suivi, en gros, il est au cœur d'une discussion mêlant histoire et politique, débat houleux entre celles et ceux qu'il présente comme l'une des principales figures de la Révolution française, démocrate acharné, défendant l'égalité des droits, l'abolition de la peine de mort et de l'esclavage. Donc ça, c'est plutôt à gauche. Et puis celles et ceux, donc plutôt à droite, qui le voient comme un dictateur assoiffé de sang qui a fait guillotiner à tour de bras. Ce débat refait surface à l'approche des élections, notamment par l'intermédiaire de l'extrême droite arrageoise. La liste Le Bon Sens à Arras, donc liste RN-UDR menée par Alban Heuzel, souhaite faire de la maison Robespierre, alors je cite, « un lieu en hommage aux victimes de la terreur » et souhaite également mettre en valeur un autre personnage arrageois que Robespierre, Alexandre Gonce Alphonse de Rougeville, figure contre-révolutionnaire et monarchiste. Alors forcément, ça interroge. On en a discuté avec Alcide Carton, président de l'association Les Amis de Robespierre.
C'est pas notre vocation d'intervenir dans le débat politique. Mais là, en fonction du contenu de ce programme, nous ne pouvons pas rester insensibles à la manière dont un parti intervient dans le débat et met dans le débat la figure de Robespierre et la nécessaire existence d'un musée à Arras, réclamé par plus de 7000 personnes en 2016, parmi lesquelles figuraient des prix Nobel, des ministres et des intellectuels de nombreux pays. Alors évidemment, ça ne peut pas nous laisser insensibles. Le fait de lire dans un programme du Front National que finalement le musée Robespierre disparaît, après 40 années de travail, de conviction auprès des édiles et auprès de la population, pour montrer tout l'intérêt qu'il y a d'un point de vue historique à parler de ce personnage fut-il controversé, on ne peut que s'étonner de la manière dont ces gens-là voient les choses.
Sur la terreur, peut-être. Donc, en fait, ce qui est présenté, c'est voilà, finalement, au lieu de mettre en avant Robespierre, mettons en avant les victimes de la terreur. Donc, alors, dans le sous-texte, c'est-à-dire Robespierre est l'auteur de cette politique de terreur.
Alors, on peut remercier le Front National de reprendre la parole de Tallien le 25 août 1794, c'est-à-dire un mois et demi après le coup d'État réussi contre Robespierre par ces gens-là. Ça, c'est curieux, quand même. Et c'est à ce moment-là que Tallien, dans une découverte politique extraordinaire, s'approche de la Convention, fait un discours devant la Convention, et dit « Nous vivons des heures difficiles, il y a un seul responsable de la terreur, c'est Robespierre. Et nous avons réussi à chasser le tyran. » Et quand vous interrogez un historien aussi brillant et connu de la population pour ses travaux sur la guerre de Vendée en particulier, Jean-Clément Martin intitule son ouvrage « Écho de la terreur » avec comme sous-titre « 200 ans d'un mensonge d'État ». Donc on ne peut que remercier, n'est-ce pas, le Front National de reprendre le mensonge d'État inventé il y a 2 siècles et demi. Mais pour être tout à fait vrai, dans le musée Robespierre, dont il est question et que la mairie a accepté de développer et d'inaugurer dans les prochaines années, nous n'avons aucun problème pour parler des 300 guillotinés de la ville d'Arras. Mais nous sommes allés un peu plus loin que les émules de la droite locale et de l'extrême droite locale, que de recopier les écrits d'un historien monarchiste en 1859 sur les crimes de Le Bon.
On revient au programme du Rassemblement National à Arras. Il est fait référence donc à cette figure, cet enfant d'Arras que le RN souhaite remettre au goût du jour, Alexandre Gonce de Rougeville. Qui était ce monsieur, Alcide Carton?
Alors c'est un noble, fils de noble, né à Saint-Laurent, qui n'a rien à voir avec le roman d'Alexandre Dumas, construit à la romantique, quoi. Bon, que je conseille aux gens, parce que ça se lit avec plaisir. Cette histoire de chevalier, très chevalier, chevaleresque, oserais-je dire, qui, tout à coup, prend tous les risques du monde pour sauver sa reine. Le problème, c'est que la réalité est tout autre, et parfois même, elle dépasse la fiction. L'auteur, historien Michel Benoît, qui vient de publier un excellent ouvrage qui s'appelle « Les enfants de la liberté », consacre une nouvelle à de Rougeville. Il nous dit « Ce type est un mythomane, un escroc, et non seulement c'est un mythomane et un escroc, un flambeur, et qui plus est, dit-il, un type plutôt lamentable qui n'hésitera pas à trahir, y compris Bonaparte, et à servir d'espion aux troupes autrichiennes et russes pendant la campagne de France en 1814, et il sera fusillé pour cela. » Moi, ce qui m'étonne là-dedans, c'est que le Front National puisse faire l'apologie d'un conspirateur contre la République et que on puisse valoriser un conspirateur monarchiste s'il fallait démontrer, sur ce petit exemple, que le Front National, contrairement à ce qu'il prétend, a des vrais problèmes avec la République. Voilà comment je voulais dire là-dessus.
Qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, ça nous dit que y a des monarchistes dans les tendances qui sont dans le Rassemblement National à Arras.
Ah, moi, je ne prétends pas ça. Je lis, comme vous, son programme. Et je me dis que le Rassemblement National et M. Hezel, qui conduit la liste, puissent trouver comme personnage à mettre en valeur dans la maison de Robespierre un monarchiste escroc, mythomane et conspirateur, ça me pose quelques problèmes en tant que citoyen et ça me pose des problèmes en tant qu'historien.
Alcide Carton, président de l'association Les Amis de Robespierre, interrogé mardi dernier. Vous retrouverez d'ailleurs l'intégralité de notre entretien sur radio-pfm.com.
Eh bien, c'est la fin de ce magazine, 11e numéro d'Élections. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau dossier, suivre l'actualité de la campagne et une nouvelle chronique aux urnes citoyennes et citoyens. Salut.
Salut.
Salut. Salut. Salut.